France Inter, Laetitia Gaillet, le 6-9 de l'été.
L'invité du grand entretien ce matin est photographe, naturaliste, plongeur et biologiste marin. Bonjour Laurent Balesta.
Bonjour.
Laurent Balesta, vous avez mené une expérience inédite cet été, 28 jours passés dans un mini sous-marin, en l'occurrence un caisson de 5 mètres carrés pressurisé à 13 fois la pression ambiante. Alors grosso modo, et vous me corrigerez si je me trompe, c'est comme si vous aviez passé 28 jours sous la mer à plusieurs centaines de mètres de profondeur, on est d'accord?
C'est ça.
Et comme il n'y avait pas de problème de pression, et bien grâce à cela, vous avez pu effectuer des plongées longtemps dans les profondeurs de la Méditerranée. Au-delà des images que vous avez vues et tout ce que vous avez rapporté, Laurent Balesta, et on va en parler, je me demandais, moi, près d'un mois après votre retour sur Terre, qu'est-ce qu'il en restait, notamment physiquement par exemple?
Physiquement, il y a des petites séquelles sans grandes conséquences.
C'est-à-dire
il faut comprendre que un séjour comme ça, le corps s'habitue à la très haute pression et donc s'habitue à cette agression d'oxygène, puisque en fait la pression augmentant, l'organisme a l'impression qu'il reçoit trop d'oxygène, donc on s'y habitue, et s'y habituer ça veut dire que l'organisme laisse s'effondrer les globules rouges par exemple, donc tous les globules rouges s'effondrent pour s'adapter à cette agression de l'oxygène. Et donc quand on sort à l'air libre au bout des 28 jours, c'est un peu comme si on nous projetait directement à 4000 ou 5000 mètres d'altitude, et donc comme n'importe quelle personne qui part en haute montagne, il faut plusieurs jours pour s'adapter, les nuits sont terribles d'insomnie, donc voilà, mais en fait, franchement, ça c'est rien du tout par rapport aux privilèges qu'on a vécu.
Oui, les effets sur le corps, je me posais la question, on passe 28 jours dans un caisson de 5 mètres carrés avec 4 personnes, parce que vous étiez 4, hein, tous les 4, on arrive à retrouver l'espace quand on sort?
Mais oui, bien sûr, demander à quelqu'un qui a vécu en prison s'il n'est pas content de sortir. Donc bien sûr qu'on s'y refait très vite. Moi, ce que j'ai remarqué en sortant, c'est au-delà des petites douleurs physiques qui sont franchement pas intéressantes, c'est l'hypersensibilité que cet isolement a recréé en nous. Le fait, en plus, moi j'avais joué le jeu jusqu'au bout, c'est-à-dire que je me suis dit à vivre cette expérience sous-marine, il faut la vivre jusqu'au bout, et donc je me coupe de toute connexion, je veux pas être informé, je veux pas recevoir des messages, je veux être coupé. J'aurai la bibliothèque que j'ai choisie avant de partir et puis mes explorations sous-marines, point. Et ben finalement ça fait un bien fou, parce que je crois qu'on refait son stock, son capital de sensibilité, et quand on sort on s'aperçoit à quel point on est ému et touché par plein de petites choses qui nous touchent plus, quand, parce que on se rend même plus compte à quel point on est agressé en permanence d'informations plus ou moins agréables, d'érotisme plus ou moins bien pensé, de publicité jamais bien pensée, voilà. Et là, on est coupé tout ça. Et quand on sort, on s'aperçoit de toute cette, de c'est pas tant que les choses aient manqué, mais c'est que voilà, tout à coup, un sourire, un coucher de soleil, des petites choses de rien du tout prennent tout à coup une toute autre dimension, juste parce que pendant 28 jours on en a été privé.
Alors plongeons maintenant avec vous dans les profondeurs de la Méditerranée. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la Méditerranée que vous avez vue?
Ben que alors moi je suis pas objectif, j'ai la vision d'un amoureux de la Méditerranée, donc forcément un peu aveuglé, et en plus j'ai choisi mon itinéraire sous-marin là sur près de 600 kilomètres de manière à aller voir les sites les plus beaux, parce que ça fait 20 ans que je fais de la plongée profonde en Méditerranée, même un peu plus, et alors avec un troublant paradoxe, c'est-à-dire que ça fait 20 ans que je plonge profond en Méditerranée, avec à chaque fois la sensation du privilège, parce qu'on se rend bien compte, il y a 20 ans, quand on avait ces fameux scaphandres recycleurs qui nous permettaient tout à coup d'aller plus bas, eh bien, on avait la sensation, effectivement, d'un privilège, on était les premiers, donc, et en même temps, tout de suite est née aussi de la frustration, parce qu'on avait beau avoir des machines qui nous permettent d'aller très profond, on était rattrapé par notre propre physiologie, qui faisait que passer 10 ou 20 minutes minutes au fond, il fallait absolument remonter parce que nous attendait 3, 4, 5 heures de remontée incompressible, ennuyeuse, pénible et un petit peu périlleuse. Et donc il y avait toujours cette... on vous montre un gâteau mais vous avez le temps de manger qu'une part, quoi. Et là, je savais qu'on allait pouvoir s'en donner à cœur joie parce qu'on ne serait plus limité par ces fameux paliers de décompression. On allait pouvoir rester au fond aussi longtemps qu'on le pourrait dans une journée. Alors ça m'a permis de choisir les sites. J'ai pas monté ce projet. J'ai rêvé de ce projet pendant 18 ans. Il a fallu 2 ans pour le mettre en place. C'était pas pour aller me déprimer en allant regarder les endroits les plus pollués de la Méditerranée. On le sait que la Méditerranée est polluée, abîmée, que c'est la poubelle de nos civilisations.
Mais il y a un message assez optimiste en même temps.
Mais oui, ce n'est pas que la poubelle de nos civilisations, c'est le berceau de nos passions aussi. Moi, vous savez, en 1972, le commandant Cousteau disait « la Méditerranée est morte ». 72. Il y était un peu fort quand même. Il a peut-être eu raison hein, pour éveiller les consciences, tout ça. Mais moi, je suis né en 74 et ma vocation de biologiste, de plongeur, de photographe, elle n'est pas née en admirant des plastiques. C'est bien qu'il y avait encore matière à s'émerveiller. Donc moi, c'est pas un scoop de dire que la Méditerranée est polluée, mais c'est une réalité. J'avais envie de montrer un autre aspect. Alors, ce sont des oasis dans le désert, j'en conviens.
Mais oui, vraiment des oasis dans le désert.
Oui, un petit peu, parce qu'elle est abîmée, elle est blessée, elle est altérée. Et que moi, je suis allé, avec mes camarades, sommes allés voir les sites les plus remarquables, ceux qui font rêver, je suis pas là pour donner... Une leçon d'espoir. Je suis encore moins là pour dire vous inquiétez pas, ça, tout va bien. Non, surtout pas. Ça va mal. Bien entendu que ça va mal. Mais sachez que c'est pas foutu complètement, qu'il y a encore des endroits qui peuvent vous arracher des larmes et pas que de douleur, hein, des larmes de à cause de cette beauté qui est là.
Lesquelles?
Y a plein d'endroits. On était sur les champs de corail noir au large de la Ciotat. On a assisté au spectacle incroyable de la reproduction des calamars veinés dans le parc national des Calanques. On a plongé sur les grandes forêts de laminaires, ces algues qu'on croit n'appartenir qu'à la Bretagne près du littoral, mais qui existent aussi en Méditerranée à grande profondeur, sur le banc de Mago au large du Cap Nègre. Il y a tellement d'endroits. Je peux même plus tous les lister. Il y a les endroits et puis il y a les créatures. C'est-à-dire que, vous savez, la vie sous-marine, pendant des siècles, ce n'est qu'un bestiaire d'animaux dans des musées, puisqu'on ne connaît pas on ne les connaît pas dans leur milieu. Or, qu'est-ce que l'on saurait d'une girafe, d'un lion, si on la connaissait que sur une table à disséquer ou au mieux empaillée dans un muséum?
Il faut la voir dans son espace naturel.
Il faut les voir dans leur décor, dans leur paysage. Et là, on voit tous ces animaux sans limite de temps, encore une fois. C'est ça qui change tout à l'observation. On peut flâner. Bien sûr qu'on est là pour faire un travail rigoureux. Mais le travail naturaliste, si on n'a pas le temps, c'est de la prise de données et rien d'autre.
Laurent Balesta, est-ce qu'il y a des choses que vous avez vues dans les profondeurs de la Méditerranée que vous n'aviez jamais vues?
Ben oui, et presque chaque jour. Et pourtant, j'ai la prétention de dire que je suis un spécialiste de la Méditerranée, vous voyez. Mais j'aime bien c'est Sylvain Tesson qui a une définition du spécialiste ou de l'expert. Il dit l'expert, le spécialiste de l'invérifiable. Voilà. Ben, quand on est spécialiste des grandes profondeurs, c'est assez facile de le prétendre parce qu'il y a quand même pas grand monde qui va y traîner. Et voilà. Mais là, ça a changé complètement parce que en un mois de plongée, on a vu plus que, on a passé plus de temps à grande profondeur qu'en 10 ou 15 ans, en tout cas à notre échelle. Et forcément, quand on a plus le chronomètre qui bat la chamade, l'observation est plus sereine. Et on a vu, alors je peux faire un inventaire à la Prévert d'animaux dont les noms donneront pas des images, mais ça fait rêver. La cardine ocellée, l'antias perroquet, la morue cuivrée. Et je peux faire une liste comme ça, très, très longue, de poissons, de crustacés, qui n'ont jamais été observés vivants dans leur milieu. Voilà, on les connaît, ils ont été décrits un jour, un animal capturé par un engin de pêche, donc on a son dessin, on a des fois même une photo de l'animal mort. mais ça n'a rien à voir avec l'animal vivant et dans son milieu. Alors ça, c'est un bonheur. Et surtout quand on se rend compte qu'on n'est pas parti au fin fond de la Papouasie, de la Polynésie ou de l'Antarctique, on était sur le littoral français.
Les fonds marins de la Méditerranée, ils ressemblent à quoi? Parce que vous nous parlez des poissons, vous nous parlez des... Ouais. Mais ils ressemblent à quoi?
Alors, moi, ce qui m'intéressait en particulier, c'était ce que j'aime appeler les récifs coralliens de la Méditerranée, que...
Moi, j'étais surprise par le nom récif corallien parce que je les imagine toujours ailleurs dans le monde.
Oui, oui. Alors, ils ne s'appellent pas récifs coralliens. On doit les appeler les récifs coralligènes, pour être très précis. Pourquoi? Parce que le récif corallien des tropiques, finalement, ce qui fait le récif, ce sont à 99% les coraux. Voilà. Ils sont très diversifiés, mais enfin, c'est un seul groupe. Les récifs coralligènes, c'est beaucoup plus de groupes zoologiques, de groupes vivants variés. D'abord, bien sûr, quelques coraux, mais c'est aussi des algues pétrifiées, c'est des éponges calcaires, c'est des vers marins, c'est des mollusques. Et tous ces animaux fabriquent de la roche biologique et fabriquent leur propre écosystème. C'est donc un récif comme un récif corallien, sauf qu'en Méditerranée, il n'est pas tout près de la surface, il est entre 60 et 120 mètres de profondeur, mais il est aussi florissant, aussi coloré et peut-être même aussi diversifié puisqu'il y a des endroits où on a compté plus de 1000 espèces par mètre carré. Voyez. Alors évidemment, encore une fois, ce sont des petits oasis dans le désert, mais faudrait voir de pas les négliger quand même.
Oui, vous regrettez justement, votre mission avait aussi un but spécifique aussi, il fallait aller voir ces endroits-là et pas que.
Oui, oui, on avait des missions très très précises puisqu'il y avait quand même dans cet énorme budget pour faire cette expédition, il y avait de l'argent public.
C'est 3 millions, c'est ça ?
Un peu moins de 3 millions, il y avait des partenaires privés qui me suivent et qui sont fidèles depuis longtemps, mais il y avait aussi de l'argent public parce qu'on avait des missions précises. Par exemple, ces récifs coralligènes, comme je vous disais, sont dominés par des algues pétrifiées en particulier. Et donc, c'est-à-dire des algues. Potentiellement, est-ce que ces écosystèmes sont donc à considérer comme des puits de carbone? Est-ce qu'ils sont capables de produire de l'oxygène et capter du CO2? On sait qu'aujourd'hui, tout écosystème capable de capter du CO2 doit être préservé à l'heure du réchauffement.
Mais c'est ma question, Laurent Balesta. On a parlé de la pollution de la Méditerranée, mais est-ce que le réchauffement climatique est visible à 100 mètres, 120 mètres, 140 mètres de profondeur dans la Méditerranée? Est-ce que c'est quelque chose qui se voit?
Oui, alors en écologie, la seule chose qu'on sait faire, et si quelqu'un vous dit le contraire, il faudra qu'il le prouve, on ne sait que comparer. Pour comparer, il faut connaître déjà avant, voyez. Donc c'est compliqué de dire comment c'était à 120 mètres il y a 30 ans, il y a 50 ans. Ce qui est certain, c'est qu'on a essayé de bien quantifier cette production d'oxygène en mettant des cloches métaboliques et voir si ces écosystèmes profonds captent de l'oxygène, captent du CO2 et produisent de l'oxygène et à quel moment ça bascule. Donc ce qui renforcerait la nécessité de les protéger. Le réchauffement, on le voit aussi parce que on a l'intuition depuis quelques années et les prélèvements génétiques qu'on a fait finiront de le prouver, j'espère, qu'il y a une sorte de migration peut-être vers les profondeurs. Des animaux qui ne sont plus à l'aise dans les couches supérieures.
Parce que c'est trop chaud ?
Oui, mais alors le problème c'est que c'est multifacteur, évidemment, sans doute parce que c'est trop chaud, mais parce que la pêche y est plus intensive, parce que les nuisances sonores y sont plus importantes. Voilà, et donc on a l'impression de voir une petite migration vers les profondeurs de certains groupes. Voilà, donc ça c'est peut-être des choses que, avec les données qu'on a relevées, qui va être révélé à la suite du traitement de tout ça. Enfin, on a fait tellement de prélèvements.
Oui, vous avez fait des prélèvements. Quel type de prélèvements?
Alors, d'abord, ces cloches métaboliques pour établir si ces écosystèmes sont producteurs ou consommateurs. Et ensuite, de la génétique environnementale en particulier. Ça, c'est un peu la génétique de la police scientifique. Hein. C'est-à-dire qu'on arrive sur les lieux d'un crime et puis on trouve des traces d'ADN et on raconte toute une histoire avec, en fait. C'est une discipline un peu neuve en sciences et en biologie marine. Mais des spécialistes maintenant font ça, c'est-à-dire que si on peut pas trouver les animaux directement, c'est pas grave, prélevons de l'eau. On prélève de l'eau, et ensuite on arrive à récupérer dans cette eau des infimes particules d'ADN et donc prouver la présence ou l'absence de certaines espèces.
Et l'eau de la Méditerranée, Laurent Balesta, est-ce que c'est la même que celle que nous on a en surface quand on va se baigner, que celle qu'il y a à 120 mètres de profondeur?
Non, elle est évidemment beaucoup plus froide, elle est surtout beaucoup plus stable, puisque l'été comme hiver, elle fait la même température. Entre 12 et 14 degrés, donc il y a pas vraiment de saison à ces profondeurs-là. L'eau y est toujours assez froide. L'eau y est souvent très claire, beaucoup plus claire qu'en surface où il y a des productions de plancton, donc de plancton végétal, animal. À ces grandes profondeurs-là, à certains endroits en tout cas, on est dans une espèce d'eau distillée, extrêmement claire, vertigineuse. Moi, j'ai eu des images qui me restent où je me suis surpris à dire « Ah, ça doit être ça, les sensations d'un alpiniste. »
Ah oui ?
Vous voyez, c'est-à-dire quand tout à coup, on voit une montagne. Nous, naturalistes, marins, plongeurs sous-marins, on a toujours été privés des vues d'ensemble. Même dans l'eau la plus claire, quand je vois un plongeur optimiste sortir de l'eau, dire « Oh là là, c'était clair, il y avait au moins 40 mètres de visibilité. » On oublie que 40 mètres de visibilité sur Terre, on appelle ça du brouillard. Et sous l'eau, parfois, c'est très rare dans une carrière, je pense que ça arrive pas souvent, mais de temps en temps, les paysages s'ouvrent parce qu'il y a tout à coup une eau vraiment cristalline et on voit des décors gigantesques.
Vous n'êtes pas nombreux dans cette discipline. Vous avez l'impression, Laurent Balesta, d'être aujourd'hui une sorte d'explorateur moderne?
J'ai la sensation que régulièrement, j'arrive à me mettre en situation de faire de l'exploration. Mais prétendre être un explorateur de nos jours, c'est, je crois, un peu manquer de respect aux vrais explorateurs des siècles passés. Mais enfin, on peut y croire. Et là, je vous assure que pendant 28 jours, avec mes camarades, on s'y est cru.
Ouais. On sent une vraie joie chez vous. La suite après, c'est les résultats des analyses, et puis on va pouvoir le voir, ce que vous avez vu.
Oui, bien sûr, je fais beaucoup de photographies, donc il y aura forcément un livre, mais il y aura aussi un film sur Arte, un 90 minutes qui va raconter notre aventure, bien sûr, mais qui va raconter la Méditerranée surtout.
Merci beaucoup Laurent Balesta d'avoir été l'invité du grand entretien ce matin sur France Inter. Merci à vous.
Merci Laetitia.